On disait à la blague que novembre, c'est le temps idéal pour le football. Gros, gros, gros week-end de football. Si vous n'aimez pas le sport, ben on va essayer de vous faire découvrir l'argent qu'il y a derrière ce sport, particulièrement aux États-Unis. Ray Lalonde, expert en marketing sportif, est avec nous. Ray, on va d'abord commencer par là où il y a moins d'argent, mais certainement pas moins d'enthousiasme. Aujourd'hui, c'est la Coupe Dunsmore entre l'Université de Montréal et l'Université Laval. Match disputé chez le Rouge et Or à Québec.
C'est le 7e affrontement consécutif entre ces deux équipes-là dans la Coupe Dunsmore. Ça va être la 15e fois possiblement pour le Rouge et Or d'aller en demi-finale canadienne. Ça, quand on parle de dynastie dans le sport, honnêtement, là, puis j'ai beaucoup de respect pour Danny Machocha puis ce qu'il fait à Montréal, là, mais Glenn Constantin puis ce qu'il fait à Québec, ça n'a jamais été vu dans le sport au Canada. Tout sport confondu, c'est peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire du Canada. Mmh. Avec 10 coupes Vanier déjà, puis depuis 20 ans, là, c'est la menace constante à chaque année.
Comment ça se fait qu'il n'est pas passé chez les professionnels?
Il y a eu beaucoup d'intérêt pour Glenn Constantin de la part de la CFL, mais je pense que pendant des années, je ne veux pas parler pour Glenn, c'est qu'il a toujours gardé ouvert l'option, lui aussi, de peut-être aller aux États-Unis pour la NFL ou pour la NCAA. Il a commencé sa carrière de football au Canada, dans l'universitaire, puis il est allé à l'Université de Houston pour les Cougars faire son apprentissage. Mais il a toujours envisager le rêve américain. Mais là, il est tellement bien installé à Québec avec une dynastie.
Exact. Puis en plus, on a souvent parlé de Glenn Constantin pour la Ligue canadienne de football. Si tu donnes le choix à Glenn d'aller pratiquer dans les coursives du Stade olympique ou de rester avec le Rouge et Or de l'Université Laval où les installations sont sublimes, je pense que le choix est assez facile.
Ah ouais, ben non, écoute. C'est l'investissement de Québec puis de M. Tanguay puis de l'Université Laval en termes de professionnalisme. Puis Glenn, qui a copié tout ce qui existe aux États-Unis dans les meilleurs programmes, il l'a emmené à Québec. Fait que lui, il recrute les meilleurs joueurs canadiens à chaque année. C'est pour ça que les Rouges et Or sont tellement forts. C'est une bataille de recrutement.
Est-ce que quand on est trop fort et qu'on a une ligue qui est complètement polarisée par deux clubs, c'est comme aux États-Unis avec la NFL, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont été battus par les Ravens lundi soir dernier et tout le monde a fait « Yeah! Enfin! Enfin! » C'est pas qu'on déteste nécessairement les Patriots et qu'on ne reconnaît pas le talent de Tom Brady, mais on se dit qu'à trop dominer, est-ce qu'on ne tue pas le produit?
Absolument. C'est sûr que c'est pas bon d'avoir une équipe trop forte trop longtemps. Et dans ce cas-ci, au Québec, le football est dominé par les Rouges et Or et les Carabins. Ça laissait très peu de chance aux universités comme McGill ou même Concordia, le Vert et Or, et même l'Université Bishop, qui ont quitté la Ligue pour aller jouer dans l'Est parce qu'ils étaient tannés de perdre à chaque semaine contre les fortes équipes de Montréal et Québec.
Il y a quelques années, j'ai amené Mme Parisien dans le stade des Buckeyes de l'Université Ohio State.
Quel
bonheur. Elle n'a jamais oublié sa visite. D'abord, premièrement, on est rentré sans que personne voie qu'on était déjà rendu dans le stade. Oui. Pas de sécurité, rien.
Il n'y avait personne, on était seuls. Impressionnant.
Et Ray Lalonde, j'expliquais à Mme Parisien, parce que j'avais mis la chanson des Buckeyes en plus, de leur fanfare.
Ah, oui. le fight song.
Le fight song. Et je disais à Mme Parisien, regardez ces estrades d'un stade vieillot des années 30 à peu près, et qui accueille plus de 100 000 spectateurs lorsqu'ils jouent contre leurs ennemis jurés, Michigan, l'Université du Michigan. Il y a même une chanson de haine qu'on chante en Ohio contre le Michigan. Cet après-midi, l'Amérique va s'arrêter pour un match de football universitaire.
Ouais, 15h30 aujourd'hui, la dominante formation du Crimson Tide d'Alabama qui reçoit leurs grands rivaux, les Tigers de LSU, Louisiana State. C'est en Alabama, c'est à Tuscaloosa, sur le campus de l'université. Il va y avoir 105 000 personnes.
Mais il n'y a pas 105 000 personnes à Tuscaloosa.
Exactement. Pour le week-end de football. Comme c'est le cas à Penn State, à State College, où j'étais. Lorsque le match de football a lieu, il y a plus de monde dans le stade que dans la ville. Alors, c'est spectaculaire. Mais la force d'Alabama... Écoute, Nick Saban gagne 9,5 millions de dollars comme entraîneur-chef.
Je veux qu'on rappelle son salaire de coach.
Ouais. C'est un ancien de la NFL.
Avant tout, un ancien du college qui est allé dans la NFL pour tenter sa chance avec les Dolphins de Miami. Il s'est planté royalement.
Moi, je pensais que la NFL, je pensais que la NFL, c'était le bout du bout de tout ce que tu voulais aller là, tu veux jouer vivre là, tu veux...
Oui, mais Thérèse, parce que tu veux gagner ta vie comme joueur dans la NFL. Tu peux pas la gagner au niveau universitaire.
Non, pas pour l'instant.
Mais les oui, exactement. Une autre parenthèse.
Ouais.
Mais les coachs gagnent mieux leur vie, les bons...
À 9 millions.
Pourquoi? Parce que plus de stabilité. Plus de sécurité d'emploi. Puis au lieu de gérer des professionnels qui rouspètent toujours, tu coaches des jeunes qui doivent être dans le rang et écouter. Alors, c'est une mentalité différente d'entraîneur que de coacher des collégiens versus coacher des professionnels. Mais là, certains n'aiment pas coacher des professionnels.
Mais là, cet après-midi, quand je dis que l'Amérique s'arrête, c'est parce qu'ils veulent obtenir... Parce que c'est par classement qu'on détermine où sont... par vote à chaque semaine, où se situent les universités. Là, on pourrait débattre, mais Ohio State, Thérèse,
oui.
que nous avons visité à Columbus, ils sont numéro un techniquement, selon certains votes. Mais LSU, c'est pas dans une bien plus grande ville, c'est à Baton Rouge, en Louisiane, et le campus lui-même fournit 32 000 citoyens et citoyennes de Baton Rouge. C'est un peu comme si on arrivait à Montréal, mais on disait, ou mettons que l'université est à Laval, sur la ville de Laval, il y a 33 000, 32 000 étudiants qui forment une communauté civile. Là.
Exactement.
Alors,
LSU, le stade, c'est le Tiger Stadium dans la région de Baton Rouge, puis on l'appelle Death Valley. Puis il y a une raison pourquoi on l'appelle Death Valley, parce que les équipes vont se faire torpiller dans le stade des Tigers. Mais la rivalité Alabama-LSU, honnêtement, c'est le sud des États-Unis qui part en guerre.
C'est effrayant.
Non, mais c'est quelque chose d'épouvantable. Mais... Quand vous parliez de tailgate tout à l'heure de la NFL, il n'y a pas de tailgate comparable au college. Le mot tailgate vient des colleges universitaires.
En Alabama, ce parce sont que les gens les arrivent... ennemis Exactement. Qui s'amènent.
Je te rappelle, il y a deux ans, l'histoire, là, ça avait peut-être plus que deux ans, Paul, il y a quelqu'un d'Auburn, un étudiant qui avait été empoisonné, deux arbres, sur le campus d'Auburn, leur grand rival, et il s'est fait emprisonner. Parce qu'il a mis du poison dans le sol pour tuer un arbre célèbre sur le campus qui était un rendez-vous, un point central pour les étudiants avant le match contre Alabama.
La rivalité est folle. Non, mais je disais à Thérèse, quand on était à Columbus, et puis ce stade vieillot, intimidant, sombre, que celui des Buckeyes, le Ohio Stadium.
Le Horseshoe qu'on appelle.
Et le Horseshoe, qui rentre 102, 103 000, 104 000 pour haïr Michigan. Et j'ai fait entendre à Thérèse cette chanson-là. Il y a une chanson qui dit « I don't give a damn about the whole state of Michigan. » I don't give a damn. Mais là, tu as 100 000 personnes qui chantent ça. Et ajoutez à ça que les fanfares de 200-300 musiciens de chacune des universités voyagent. Il n'y a rien qui remplace l'atmosphère d'un match de football universitaire américain.
Non, absolument.
Es-tu d'accord?
Absolument. Oui? Puis tu vas là pour la journée. Quand j'étais à Penn State, les gens arrivaient avec leur Winnebago dans le stationnement du stade qui contient 110 000 personnes. Ils arrivaient là le jeudi soir. Fait que là, le vendredi, le tailgate commence. Mais le match a lieu seulement le samedi après-midi. Dans ce cas-ci, c'est 15h30 aujourd'hui. Puis les gens passent le week-end à fêter, à jouer au football dans le parking. Ils amènent leur télé. Ils n'ont pas toujours des billets pour le stade, par exemple. Fait que ça se peut qu'ils ne regardent pas le match dans le stade. Ils vont le regarder dans le parking, leur télé, avec leur ordinateur aujourd'hui sur le Wi-Fi. Mais ils vont fêter quand même. Mais ils sont sur place. L'important, c'est d'être sur place. Je reviens sur LSU Alabama. Pourquoi ces deux grands rivaux? C'est parce que aujourd'hui, là, ils sont rankés numéro 2 et 3, respectivement, derrière Ohio State, puis précédant Penn State. Puis l'important, c'est que les quatre premiers seulement se rendent à ce qu'on appelle College Football Playoff.
Ouais.
Et ont une chance d'aller au match ultime en janvier prochain. Puis l'autre chose qu'Alain Crête me faisait mentionner, c'est que Nick Saban, quand il était plus jeune, il coachait à LSU. Là, il coach à Alabama. Fait qu'il a gagné un championnat national à LSU, puis en a gagné 5 en Alabama déjà. C'est un des plus grands coachs de l'histoire.
Alors, Ray, j'aimerais t'amener sur... D'abord, premièrement, donne-moi des chiffres. L'argent généré par l'industrie du sport universitaire, et en particulier le football. C'est-à-dire, attachez vos tuques et vos ceintures.
Bon, pour vous donner une comparaison, là, la NFL génère à peu près 18 milliards de dollars en business annuellement. La Ligue nationale de hockey, à peu près 5 milliards de dollars canadiens, US. 5 milliards, c'est gros. Mais la NCAA en génère 13 milliards. Fait que la NCAA et l'ensemble de ces 1000 équipes, mais oui, parce qu'il y a beaucoup d'équipes.
Oui.
Fait que 1000 équipes dans tous les sports,
ça
fait beaucoup d'argent.
Je vous rappelle, Thérèse, que c'est du sport amateur.
En plus,
et qui garde cet argent-là, Paul? Les institutions, évidemment, et la NCAA, parce que les athlètes n'en ont pas.
Les joueurs ne sont pas payés.
Exactement.
Ça, il faut se rendre compte, là, c'est incroyable.
Mais 13 milliards de dollars pour la business de la NCAA, puis des équipes universitaires comme Alabama, là, qui ont un budget de football seulement, qui frôle les 200 millions de revenus. 200 millions de revenus?
Oui, parce que...
Il y a la moitié des équipes de la Ligue nationale de hockey qui ne génèrent pas 200 millions en revenus.
Ils vendent leurs billets très chers et ils vendent tous leurs produits, leurs accessoires à travers
le monde. Mais les joueurs sont payés comment?
Ils ne sont pas payés. Ils ont une bourse d'études, ils ont le logement, la scolarité, l'alimentation. Thérèse, c'est pas un mauvais deal.
Non, mais
ils sont relativement exploités, entre guillemets.
Ou ils vont signer des cartes comme Johnny Manziel et ils se font mettre à la vente. Parce que Johnny Manziel avait fait ça, universitaire. Ouais,
t'as pas le droit de faire ça.
Avait été signé des cartes et il s'était
fait
payer.
Ça va changer, ça, Jérémy.
Mais Ray, assurément. Il y a une réalité. Ouais. Ça coûte horriblement cher à aller étudier dans une grande université américaine. Lorsqu'ils obtiennent une bourse, ça vaut combien à peu près annuellement?
Encore une fois, la scolarité aux États-Unis, quand on étudie à McGill ou à Concordia, ça peut nous coûter 400 000 par année, ce qui est relativement modeste. T'arrives aux États-Unis, des universités comme Harvard ou Yale, ou même des Michigan ou des Penn State, peuvent te charger 50 000, 60 000.
Ah!
US! Fait qu'une bourse d'études pour un joueur qui est athlète, étudiant-athlète, ça y vaut 50 000 fois 4!
Oui, et en plus d'être logé et nourri. Et tous les frais médicaux.
Tout est couvert, toute l'assurance, mais il n'y a pas d'argent dans sa poche.
OK, mais quand ils font 200 millions, eux autres, ça va où?
Ça, ils réinstallent de nouvelles installations pour mieux recruter. Ils agrandissent le stade. Ils volent en vol nolisé pour les joueurs, pour les matchs. Ils payent des coachs 9,5 millions de dollars par année, Thérèse. Dans une université, ça n'a aucun bon sens. Le président de l'université va gagner 500 000. Le coach en gagne 9,5 millions. Comprends-tu?
9,5 millions. Ça, c'est le coach universitaire.
Aïe, aïe, aïe.
Il y a aussi 12 assistants qui en gagnent 500 000 chaque.
Les
adjoints. Non, mais attends, là, le budget de dépenses...
On n'est pas dans la Ligue canadienne, là.
Non.
Ray, mets tes écouteurs. Parce que, avec Thérèse, je lui ai fait faire la visite complète de ce stade qui accueille, comme je dis, lors de l'affrontement entre Michigan et Ohio State. N'allez pas porter un chandail de Michigan à Ohio State et vice-versa à Ann Arbor. Arrivez pas avec un chandail d'Ohio State à Ann Arbor. Vous allez vous faire sortir Manu Militari. Et voici un extrait de la chanson qu'on chante à Columbus quand Michigan vient jouer. We don't give a damn about the whole state of Michigan. C'est ça la rivalité.
Paul, le match Michigan-Ohio State s'en vient dans quelques semaines. Si tu veux, là, on se retrouve ici un samedi puis on en reparle parce que là, ça va être vraiment le feu et l'eau. Michigan avec Jim Harbaugh.
Aimes-tu les chances des Alouettes demain, Ray?
Oui, bonne chance pour eux. Ça va être une série intéressante.